VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mardi 15 mai 2018. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Une cinquantaine de manifestants palestiniens tués à Gaza hier, pendant que s'ouvrait à Jérusalem la nouvelle ambassade des États-Unis.
En République démocratique du Congo, crépitement de balles à Lubumbashi, dans la commune de Ruachi, lors de manifestations de la population, selon notre correspondant sur place.
Au Burundi, dernier jour hier de la campagne pour le changement constitutionnel.
Libération hier à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville de 17 des 20 activistes du mouvement citoyen ras-le-bol.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Actualité oblige, nous commençons par le Moyen-Orient. Des dizaines de Palestiniens ont été tués et plus de 2000 blessés hier dans des accrochages avec les forces israéliennes le long de la frontière de la bande de Gaza avec Israël, où des milliers de Palestiniens manifestaient contre l'ouverture de la nouvelle ambassade des États-Unis à Jérusalem. Pendant que des officiels américains et israéliens célébraient le transfert de cette ambassade de Tel Aviv à la ville sainte, la violence faisait rage à moins de 100 km de là. Selon l'armée israélienne, plus de 40 000 Palestiniens ont participé aux protestations et d'après les responsables des services de santé palestiniens, 52 manifestants ont été tués quand les soldats israéliens ont tiré à balles réelles et usé de gaz lacrymogène contre les protestataires. C'était la journée la plus meurtrière depuis la guerre de 2014 entre Israël et Gaza. La direction palestinienne a crié au massacre.
Une nouvelle mobilisation est prévue près de la frontière israélienne aujourd'hui et les manifs et les observateurs craignent que le bilan des victimes ne s'alourdisse. Les Palestiniens entendent de protester contre ce qu'ils appellent la Nakba ou la catastrophe qu'a constitué pour eux la création d'Israël en 1948 et qui a été synonyme d'exode pour des centaines de milliers de. Les événements de lundi ont suscité une vive inquiétude internationale. Jean-Roger Bion.
Les adversaires d'Israël ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme ont de nouveau condamné l'État hébreu pour usage disproportionné de la force, alors qu'Israël répète ne tirer à balles réelles qu'en dernier recours. Les ONG Amnesty International et Human Rights Watch ont qualifié ces tirs à balles réelles d'injustifiés, la première fustigeant une violation abjecte des droits de l'homme et des crimes de guerre. La Turquie a accusé Israël de terrorisme d'État et de génocide, estimant que les États-Unis partageaient la responsabilité du massacre à Gaza. Ankara, tout comme l'Afrique du Sud, a rappelé son ambassadeur en Israël. L'Iran a dénoncé un jour de grande honte, évoquant un massacre de sang-froid à Gaza, pendant que les États-Unis, je cite, célébraient le transfert de l'ambassade illégale. Fin de citation. L'Arabie Saoudite a condamné les tirs israéliens sur des Palestiniens, mais n'a pas mentionné l'inauguration de la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem. Le président français Emmanuel Macron a condamné les violences des forces armées israéliennes contre les manifestants palestiniens à Gaza et réaffirmé la désapprobation de la France à l'encontre de la décision américaine d'ouvrir une ambassade à Jérusalem. Il a souligné que le statut de la ville ne pourrait être déterminé quand les parties dans un cadre négocié sous l'égide de la communauté internationale. L'Union européenne et Londres ont appelé à la retenue. Le Koweït a demandé une réunion en urgence mardi du Conseil de sécurité de l'ONU, tandis que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit particulièrement inquiet. Pour leur part, les États-Unis ont bloqué lundi l'adoption d'un communiqué du Conseil de sécurité qui entendait exprimer son indignation et sa tristesse face à la mort de civils palestiniens exerçant leur droit à manifester pacifiquement. La Maison-Blanche a imputé au Hamas, au pouvoir à Gaza, l'entière responsabilité de la mort des Palestiniens près de la barrière de sécurité. Israël, tout comme les États-Unis, réfute le caractère proclamé pacifiste de la mobilisation à Gaza et dit qu'elle sert de couverture aux tentatives du Hamas de s'infiltrer en Israël. La Ligue arabe doit se réunir en urgence mercredi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Actualité en Afrique, en République démocratique du Congo, notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila, nous signale des crépitements de balles dans la commune de Larouachi, où, dit-il, depuis 2h du matin, heure locale, la population manifeste pour exprimer sa colère contre l'insécurité et l'incapacité des autorités à assurer la sécurité des personnes et des biens. À la base de cette manifestation nocturne, des hommes armés qui ont investi au quartier 6, la maison d'un propriétaire d'une école où ils ont fait une victime, un enfant. Et toujours cette nuit, des hommes armés ont également été signalés dans le quartier Jolicite, dans les environs de la résidence du gouverneur Pande Kapopo. Jusqu'à présent, la situation est très tendue entre la population et la police. La population demande la démission du gouverneur et du maire de la ville, nous a dit encore Narval Mabila.
Au Congo-Brazzaville, 17 des 20 activistes du mouvement citoyen Le Ras-le-Bol ont été libérés hier à Pointe-Noire après avoir passé une semaine dans les locaux de la police. Les autorités les avaient accusés de troubler l'ordre public alors que la société civile sur place parle de simples démarches citoyennes. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Sévrin.
Les 17 activistes ont été libérés en présence de leurs parents. Les tractations ont duré toute la journée de lundi avant que le groupe des jeunes ne quitte les locaux de la DDST vers 15h en heure locale. Ils ont été libérés à moitié habillés avec une coiffure bizarre, a constaté Georges Nguila, le responsable de l'OCDH à Pointe-Noire. Le 7 mai dernier, 20 jeunes membres du mouvement Le Ras-le-Bol ont été arrêtés dans la ville pétrolière alors qu'ils tentaient de déposer une requête auprès du parquet pour dénoncer la détention des opposants dans les maisons d'arrêt. Selon Georges Nguila, qui a facilité ces libérations, les jeunes n'ont commis aucune infraction assimilée à trouble à l'ordre public. Mais 3 autres activistes, tous membres du bureau du Ras-le-Bol à Pointe-Noire, n'ont pas été libérés. Ils pourraient être présentés devant le procureur de la République. Il s'agit de Franck Badiata, Julfa Banga et de Van Kibamba. La semaine dernière, la police a également arrêté à Brazzaville le coordonnateur national de ce mouvement, Franck Njila Malembe, et 2 de ses compagnons. Ils sont toujours en détention à la maison d'arrêt. Arsène Sévérin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Burundi, dernier jour de la campagne pour le changement constitutionnel, le parti présidentiel termine sa campagne pour le oui au cercle hippique de Bujumbura. L'UPRONA du premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, à Kamenge, au nord de la capitale, et le FNL Amizero Yabarundi à Gitega, dans le centre du Burundi, pour le non. Le vote référendaire est programmé pour jeudi de Bujumbura, correspondance de Christophe Nkurunziza.
Le parti présidentiel, à la tête duquel le secrétaire général Évariste Ndayishimiye a terminé sa campagne au cercle de Bujumbura. Une foule nombreuse des militants dans leur tenue de l'aigle battait campagne pour le oui. De même que les sympathisants du parti de l'indépendance UPRONA qui s'étaient déplacés vers le quartier de Kamenge au nord de Bujumbura derrière le premier vice-président Gaston Sindimo. Ces deux formations politiques vantent les mérites du changement de la constitution qui avait été adopté en 2005 après des années de négociations. Agathon Rwasa, quant à lui, était au centre du Burundi, dans la province de Gitega, où ses sympathisants avaient répondu pour le non de la révision constitutionnelle. Pour le parti Front National de Libération, qui ne sera plus une coalition d'indépendants après l'adoption de la nouvelle constitution, la réforme constitutionnelle enterre définitivement les accords de paix et de réconciliation d'Arusha signés en 2000. Rappelons que plus de 26 personnes ont été tuées par un groupe armé vendredi dernier et 7 personnes blessées, selon le ministre de la Sécurité publique, Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le porte-parole des armées françaises a révélé hier que 2 avions de chasse français ont survolé dimanche Kanga Bandoro à 300 km au nord de Bangui pour renforcer le caractère dissuasif du dispositif de la MINUSCA. Des violences qui ont fait 24 morts et plus de 170 blessés le 1er mai à Bangui font craindre une résurgence d'affrontements intercommunautaires à grande échelle en Centrafrique, à l'image de ceux de 2013-2014. Mi-avril, 2 des principaux groupes rebelles armés issus de l'ex-Séléka, prétendant défendre les musulmans, avaient menacé de lancer une offensive sur Bangui depuis Kaga Bandoro.
Au Sénégal, le procureur de la République a requis de lourdes peines dans le procès des djihadistes présumés. Jugés devant la Cour criminelle spéciale de Dakar, les accusés risquent des peines de prison allant de 5 ans à la perpétuité. La plupart des prévenus sont en détention préventive depuis 2 ans environ. De Dakar, correspondance de Seydina Abagay.
Dans son réquisitoire, le procureur a commencé par dire que la lutte contre le terrorisme constitue l'un des défis majeurs du XXIe siècle. Il s'est dit convaincu de la culpabilité des accusés. À ce titre, il a requis 30 ans de prison contre l'imam Daou pour les délits d'apologie du terrorisme, blanchiment de capitaux, détention d'armes et de munitions. Le procureur a requis la prison à perpétuité contre Makhtar Diohane, accusé d'avoir reçu des financements venant d'Aboubakar Shekau, chef de Boko Haram. Cette même peine a été requise contre une dizaine d'autres accusés parmi lesquels les jeunes qui étaient allés combattre auprès des djihadistes. Pour le procureur, techniquement et théoriquement, l'entreprise terroriste s'est avérée, aussi bien pour ceux qui ont été au Nigeria dans le fief de Boko Haram que pour ceux qui ont été au nord du Mali avec ACMI. 15 ans de travaux forcés ont aussi été requis contre Koumba Nyan, seule femme à risquer une peine de prison dans ce procès. En outre, le procureur a demandé la relaxe pure et simple pour 8 des prévenus. Les plaidoiries de la défense sont prévues à partir de ce jeudi 17 mai. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le ministère ivoirien de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme veut rendre l'offre foncière en Côte d'Ivoire plus attractive. Abidjan prévoit une simplification, une digitalisation des procédures et une interconnexion de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la chaîne de production foncière urbaine. L'autorité évoque notamment la numérisation des guides des registres villageois et l'élaboration du code de l'urbanisme. En Éthiopie, les exportations ont rapporté plus de 2 milliards de dollars en 3 trimestres. L'objectif initial était de dépasser plus de 3 milliards et demi de dollars. Les autorités éthiopiennes estiment que le principal facteur de cette performance relativement faible constitue le commerce de contrebande. En revanche, les graines oléagineuses, le thé et l'électricité ont réalisé les meilleures performances et ont atteint plus de 75% des objectifs. Des intrants chimiques et de construction, le textile, les épices, l'or, les animaux vivants, les chaussures et les produits du miel ont réalisé moins de 50% des objectifs fixés. Le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et le Mexique a atteint plus de 123 millions de dollars en 2017. Les entreprises mexicaines investissent notamment dans la construction, le ciment, le pétrole, l'énergie et la technologie. Le Caire est le troisième partenaire commercial du Mexique en Afrique.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Pas de mondial 2018 pour Mounir El Haddadi.
International espagnol à une reprise en 2014, l'attaquant d'Alavés souhaitait évoluer avec le pays de ses parents, le Maroc donc, mais la FIFA a rejeté sa demande en mars dernier. Le joueur et la fédération marocaine s'étaient alors tournés vers le tribunal arbitral du sport, mais là encore, pas plus de succès. En effet, le TAS a rejeté la demande de l'ancien Barcelonais.
Préparation du mondial 2018 toujours, la préliste de l'argent. L'Argentine est connue.
Après l'Islande, la Croatie et le Nigeria, l'Argentine a été la dernière équipe du groupe D du Mondial 2018 à dévoiler une présélection de 35 joueurs. Autour de Messi, les têtes d'affiche Otamendi, Mascherano, Agüero et Higuain font toute partie de cette liste élargie avec les Parisiens Angel Di Maria et Giovanni Lo Celso. Peu utilisés durant les qualifications, Dybala et Icardi ont aussi été sélectionnés par Jorge Sampaoli. En attendant, la liste des 23 qui sera annoncée le 21 mai.
Le Brésil, lui, a directement publié sa liste des 23.
Blessé au genou et forfait pour plusieurs mois, Dani Alves sera le principal absent pour la Seleção, qui comptera en revanche sur sa star Neymar, qui n'a plus joué depuis le mois de février. Deux autres Parisiens, Marquinhos et Thiago Silva, ont aussi été retenus, tout comme Firmino, coéquipier modèle au service de Mané et Salah à Liverpool, Rafinha du Bayern Munich, Alex Sandro de la Juve, Fabinho de l'AS Monaco et Luis Gustavo de l'OM n'ont pas en revanche été sélectionnés. Tite et sa bande affronteront le Costa Rica, la Suisse et la Serbie dans le groupe E.
Roberto Mancini est le nouveau sélectionneur de l'Italie.
L'ancien entraîneur notamment de l'Inter Milan, de Manchester City ou du Zenit Saint-Pétersbourg prend la suite de Gian Piero Ventura, démis de ses fonctions après le fiasco du mois de novembre. La mission du technicien italien de 53 ans est de reconstruire une équipe d'Italie abîmée par son échec du mois de novembre et de la qualifier pour l'Euro 2020. L'Italie ne participera pas cet été au Mondial 2018 pour la première fois depuis 1958. NBA, pour terminer, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en play-off.
Le champion en titre, Golden State, a idéalement débuté la finale de la conférence Ouest des playoffs NBA en s'imposant sur le parquet de son grand rival Houston, 119 à 106. Les Warriors mènent une victoire à zéro dans cette série qui se dispute au meilleur des 7 matchs avant le match numéro 2 qui aura lieu mercredi de nouveau à Houston.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seboudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Des dizaines de Palestiniens ont été tués et plus de 2000 blessés hier dans des accrochages avec les forces israéliennes le long de la frontière de la bande de Gaza avec Israël, où des milliers de Palestiniens manifestaient contre l'ouverture de la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem. Pourquoi la ville de Jérusalem soulève-t-elle toujours autant de passion? Idriss Fall a joint à Dakar M. Oumar Niang, directeur du groupe African Global Industries, qui a vécu longtemps en Israël.
Jérusalem soulève toutes ses passions parce que Jérusalem, c'est la capitale du monothéisme partagé par les juifs, les chrétiens et les musulmans en même temps. Cela suscite énormément de convoitises pour les juifs. Il y a par exemple le mur des lamentations qui symbolise le temple qui a été détruit. Pour eux, c'est le lieu le plus sacré de leur religion. Pour les chrétiens, c'est là où par exemple Jésus a été crucifié. Il y a le Golgotha donc, qui représente cela et avec l'église du Saint-Sépulcre. Pour les musulmans, c'est l'esplanade des mosquées où on dit que, par exemple, le prophète est passé par là-bas pour monter au ciel et prendre les prières que les musulmans utilisent aujourd'hui. Et Jérusalem a été la Qibla, c'est-à-dire le lieu de direction des musulmans pendant 7 mois après que le prophète soit monté au ciel pour prendre les prières. Donc tout cela mis ensemble complique beaucoup la situation dans cette région.
Mais justement, à cause de cette complexité, on avait confié la gestion de certains lieux saints à la Jordanie. Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Ça s'est produit en 1967, après la guerre des six jours. À l'époque, entre 1949 et 1967, la vieille ville de Jérusalem a été occupée par la Jordanie. Maintenant, après la guerre des six jours, elle a été récupérée par les Israéliens. Et ils ont préféré, après avoir conquis la vieille ville, ils ont dit que l'esplanade des mosquées, puisque par exemple c'était le lieu de culte déjà des musulmans depuis quelques siècles, ils ont préféré laisser la gestion de l'esplanade des mosquées à la Jordanie. Alors il y a par exemple une autorité qui gère l'esplanade sur place, mais cette autorité dépend directement de la Jordanie. Ça ne dépend pas de l'État d'Israël. À chaque fois qu'il y a lieu de prier le vendredi, les Israéliens se contentent juste de sécuriser l'environnement de la mosquée. Mais ils ne pénètrent pas à l'intérieur de l'esplanade.
Voilà. Jérusalem, capitale d'Israël, les Palestiniens aussi veulent faire de Jérusalem leur capitale. Comment est-ce que c'est possible?
Peut-être on pourrait penser à un partage, mais même ce partage va être très compliqué. Il y a Jérusalem Est quand même qui est arabe et la Jérusalem Ouest qui est juive. Donc on pourrait peut-être partager ça, mais le nœud gordien du problème c'est la vieille ville elle-même. Parce que la vieille ville elle est composée de 4 quartiers. Il y a le quartier musulman, il y a le quartier chrétien, il y a le quartier juif et le 4e quartier c'est le quartier arménien. Et au centre de tout cela, il y a le Saint-Sépulcre, il y a l'esplanade des mosquées, il y a aussi le mur des lamentations. Donc, partagé, compliqué. Peut-être que ce que l'ONU avait proposé, si ça avait été accepté depuis 1947, peut-être que ça aurait été mieux pour Jérusalem. Elle appartiendrait à tout le monde. Elle aurait eu un statut international et personne ne pourrait prétendre en faire sa propre propriété.
Oumar Niang, un Sénégalais qui a vécu longtemps en Israël.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Hier, c'était le dernier jour de la campagne pour le changement constitutionnel au Burundi. Le parti présidentiel a terminé sa campagne pour le oui au cercle hippique de Bujumbura. L'UPRONA du premier vice-président de la République Gaston Sindi Mou à Kamenge, au nord de la capitale, et le FNL Amizero I Abarundi à Gitega, dans le centre du Burundi, pour le non. Le vote référendaire est programmé pour jeudi. Reportage de Christophe Kurunziza à Bujumbura.
Le parti présidentiel, à la tête duquel le secrétaire général Évariste Ndayishimiye a terminé sa campagne au cercle de Bujumbura, une foule nombreuse de militants dans leur tenue de l'aigle battait campagne pour le oui, de même que les sympathisants du parti de l'indépendance UPRONA qui s'étaient déplacés vers le quartier de Kamenge au nord de Bujumbura, derrière le premier vice-président Gaston Sindi Mou. Toutes ces deux formations politiques vantent les mérites du changement de la constitution qui avait été adopté en 2005 après des années de négociations. L'homme estime que le oui va gagner.
Apparemment, je vois qu'il y a le oui qui va passer, sincèrement. Il y a aussi le non qui n'est pas moindre, mais je crois que sûrement, avec ce qu'on a préparé déjà, le oui va passer. Quoique il y aurait toujours des frustrations, comme au match de football, quand il y a des qui s'affrontent, il y a l'adversaire, il y a celui qui gagne, il y a celui qui perd. Donc il y a toujours un esprit de contestation, de frustration qui peut apparaître.
Agathon Gwasa, quant à lui, était au centre du Burundi, dans la province de Gitega, où ses sympathisants avaient répondu pour le non de la révision constitutionnelle. Ce trentenaire affirme qu'il a peur.
Ma réaction, c'est une réaction de crainte. Je crains que le comptage peut être truqué, parce que j'ai vu que le non a eu beaucoup de soutien, malgré la peur, l'intimidation par les jeunes du parti au pouvoir. Oui, j'ai peur.
Cette femme affirme que les oui va l'emporter.
Si on vote non ou oui, oui, c'est là gagné à cause du parti politique qui est au pouvoir. On voit qu'il n'y a pas d'autre démocratie au Burundi. C'est pourquoi, si on vote non, oui, c'est la gagne.
Pour le parti Front National de Libération, qui ne sera plus une coalition d'indépendants après l'adoption de la nouvelle constitution, la réforme constitutionnelle enterre définitivement les accords de paix et de réconciliation d'Arusha signés en 2000. Rappelons que plus de 26 personnes ont été tuées par un groupe armé vendredi dernier et 7 personnes blessées, selon le ministre de la Sécurité publique, Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Bénin, ça grogne de plus en plus dans les rangs des journalistes de la presse privée. Ils dénoncent, je cite, une situation précaire sur fond d'exploitation intense par certains patrons de presse, des journalistes sans contrat de travail, sans salaire, sans protection sociale. C'est ce que nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
La libéralisation de l'espace médiatique béninois a permis l'éclosion d'une multitude d'organes de presse. De deux radios à peine à la fin des années 80, on en compte aujourd'hui plus de 113, 15 chaînes de télévision et 63 journaux ayant une base légale, à côté de plusieurs autres dizaines, naviguant dans l'illégalité. La libre pluralité de l'expression qui donne aux médias le rôle de quatrième pouvoir cache bien des réalités d'une grande tristesse. Modeste Dossa est journaliste au sein d'une chaîne de télévision privée, Golf TV Africa. Il parle d'une précarité qui finira par achever le journaliste de la presse privée.
Il faut avouer que le journaliste béninois dans la presse privée ne vit véritablement pas bien. Nous avons des patrons de presse qui pensent d'abord à leur poche avant de penser à ceux qui véritablement leur permettent d'avoir un nom. Dans la presse béninoise, rares sont ceux qui peuvent dire qu'ils tiennent véritablement le coup. Il faut forcément pactiser avec le diable, c'est-à-dire se mettre à la disposition d'un politique, se mettre à la disposition d'une association. Et dans ce cas précis, vous ne faites plus le journalisme puisque des comportements vous sont dictés de l'autre côté.
En parler pourrait vous contraindre à un chômage immédiat. Bien de patrons de presse ont fait signer à leurs employés des documents qui les empêchent de se plaindre au risque d'en payer le prix fort. Fortuné Sousa est journaliste, président de l'Association des journalistes culturels du Bénin. Il parle ici du non-respect de la convention collective qui fixe le salaire à au moins 120 000 francs CFA.
Le plancher, c'est 120 000 francs pour un journaliste qui vit à Cotonou ou dans les centres urbains, mais qui heureusement, malgré ces chiffres qui sont dérisoires, la majorité des patrons de presse ne payent pas. Il y a beaucoup de journalistes qui ne sont presque pas payés. Il y en a qui sont payés presque à 6 mois ou à 10 mois sur l'année. Donc ça fait que le journaliste béninois, notamment dans la presse du service privé, vit mal.
Le salaire le plus bas est de 15 000 francs CFA parce que le patron espère que sur le terrain des couvertures médiatiques, le journaliste pourrait se faire payer les frais de déplacement. Du coup, beaucoup se lancent dans une sorte de rançonnement et de chantage. Un directeur général est payé à moins de 200 000 francs CFA. Il s'arroge toutes les couvertures médiatiques du mois pour avoir le complément. Pour Benoît Dadja, la presse privée en elle-même est très malade.
Là, nous avons connu les pires moments de notre histoire. Sans nécessaire, avec beaucoup de journaux qui n'ont pas de siège, qui n'ont de siège que dans leur sac, et qui écrivaient n'importe quoi, qui attaquaient directement la vie privée des gens, qui voulaient régler des comptes. Une presse totalement clochade, une presse agonisante, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau de la sécurité sociale. Mais il n'y a rien, le journaliste est en l'air. Vous apprenez un jour qu'il a un accident, qu'il meurt, ses enfants sont dans la précarité. Mais c'est malheureux, c'est triste.
Aujourd'hui, c'est dans la presse privée que les journalistes sont le plus manipulés. Quelques-uns en parlent.
Lorsque vous observez bien, nos hommes politiques, dès qu'ils commencent par monter et dès qu'ils ont de grandes ambitions politiques, ils veulent avoir leurs journaux à eux, ils veulent avoir leur radio à eux, ils veulent avoir leur presse écrite à eux et ils investissent même pour faire créer ces organes de presse-là.
Le politique cherche toujours à manipuler les journalistes. Nous-mêmes, on ne sait pas et on tombe dans leur panneau.
Beaucoup se font renvoyer sans aucune autre forme de procès dans le silence et la complicité des associations fêtières qui, pour le moment, ne sont d'aucun secours pour le journaliste. L'État doit se pencher sur la situation, explique Modeste Dossa.
Il faudra véritablement que l'on pense donner une licence à ceux qui sont en mesure véritablement et bien d'avoir les moyens pour conduire cette licence-là à bon port. N'importe qui se lève aujourd'hui, il peut avoir une radio. N'importe qui se lève, il peut avoir une télévision. Il va falloir que cette façon de faire la soit réglementée. Sinon, ne vous attendez à rien du tout.
De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Une zone économique spéciale entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est ce qu'ont lancé les premiers ministres de ces trois États à Sikasso au Mali. Cette zone que certains appellent le triangle du Balafon couvre la zone entre Korogo, Bobo-Dioulasso et Sikasso. Elle a pour but d'améliorer la coopération économique dans la région. Bagassi Koura a joint le maire de Bobo-Dioulasso, Bora Hima Sanou, qui pour l'occasion s'est rendu à Sikasso.
Cette zone, déjà que nous appelons Escabo, Esfa, Sikasso, Korogo, Bobo, il faut dire que c'est une zone économique et culturelle depuis très longtemps. Et depuis un certain temps, nous, la collectivité territoriale, nous avions essayé de nous rapprocher dans le cadre de la coopération décentralisée avec l'appui de certains partenaires, peut-être les mois. En tout cas, les échanges à ces frontières-là, en se basant sur un nombre d'activités dans cet espace, en essayant de les appliquer. Et nous appuyer sur le dispositif de l'Union monétaire africaine.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ça veut dire que les démarches vont être plus allégées dans cette partie de ces pays-là que dans le reste de ces pays?
Non, en fait, ce qui vient de se lancer aujourd'hui, nous estimons que, en fait, ça n'est pas nouveau pour nous, les collectivités territoriales. Nous allons dire tout simplement, ça, c'est un accord au niveau des trois États, au niveau du gouvernement. Depuis très longtemps, bien sûr, dans le cadre de l'UMOA, il est dit que, en principe, ça devrait faciliter la vie de situation des personnes et des biens. Mais, malheureusement, nous, les collectivités, au niveau de la base, nous avions senti que ce n'était pas réel. Je dirais que c'est ça que nous sommes impliqués en nous approchant par la coopération décentralisée, comme je l'ai dit. Même avant ça, nous avions créé ce que nous avons appelé l'Union transfrontalière des collectivités territoriales, qui regroupe des collectivités du Burkina, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est un lancement. Nous espérons que ça va être un appui, un engagement réel et des pas pour nous accompagner. Sinon, c'est dire que, bon, pour nous, ce n'est vraiment pas nouveau.
Oui, ce n'est pas nouveau, mais s'il y a un commerçant qui est à Bobo-Dioulasso qui suit tout ça, qu'est-ce qui va changer dans sa vie s'il doit se rendre à Sikasso et à Korogo?
Alors, c'est quoi? Mettre en place des infrastructures structurantes, c'est-à-dire qui vont venir en appui à la production, en appui à l'économie locale, la réalisation de ces infrastructures telles que, par exemple, les routes, les infrastructures telles que la régionalisation des secteurs d'aéroports, l'aéroport de Bobo peut-être, de Sikasso, je sais. Ça va permettre aux commerçants, aux entreprises de bénéficier d'un cadre propice et des moyens en appui à la production et à la commercialisation et pouvoir mieux se mouvoir, de pouvoir mieux exploiter leur activité. C'est comme ça que je vois ça.
C'était le maire de Bobo-Dioulasso, Bouraïma Sanou.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.